Salut tout le monde sur Internet. Avec Julien, on a décidé qu'on allait faire un rendez-vous, je sais pas, weekly ou bi-weekly, où on allait un peu parler de tout ce qui se passe dans l'écosystème AI, de nos idées, de ce qu'on voit passer. L'idée, c'est. Moi, je le vois un peu comme ma data news, mais vu que j'ai pas besoin d'écrire, c'est plus facile, c'est à l'oral, c'est un peu la collection des liens et on en discute ensemble. Donc voilà, c'est le premier format. L'idée, c'est qu'on échange comme ça, à distance. On partage l'écran, on partage les articles, on réfléchit, on pose ça sur Internet sans trop de montage. On fera des trucs s'il y a des trucs. Et puis voilà, quoi. Peut-être tu veux te présenter, tu veux te dire un truc. Pourquoi t'as eu aussi envie de faire ça?
Ouais, mais en fait, on s'est retrouvé sur un call il y a une semaine et puis on était, je crois, on avait tous les deux un peu le même constat, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'actualités. Du coup, c'est assez dur d'organiser toutes ces idées dans la tête et il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et je pense que c'est pas mal. Enfin, moi, j'ai besoin de discuter avec des gens qui connaissent aussi qui connaissent aussi le métier, puis avoir leur vision et puis ça aide aussi à canaliser tout ce flux d'informations et un peu structurer la pensée. C'est vrai que c'est pas évident. Enfin, c'est surtout depuis le début de l'année. Là, je sais pas, depuis que je suis rentré de vacances en début d'année où j'ai toutes les idées qui partent un peu à droite à gauche, un mélange un peu d'anxiété et puis d'euphorie. Et c'est vrai que le fait d'osciller entre les deux, ça a fait un mois de janvier qui était assez bizarre. Et du coup, voilà, je me réjouis de pouvoir discuter avec toi toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Je pense qu'on pourra aussi inviter d'autres gens, d'avoir
Ouais,
d'autres
de ouf.
perspectives, ça va être super intéressant. Mais je pense qu'en tout cas, on manquera pas d'actualité. Donc, voilà,
Ouais,
je
et
m'en réjouis. Et
puis,
puis.
même s'il n'y a pas d'actualité, on trouvera des trucs, quoi.
Ouais, exactement. On reparlera data engineering.
Ouais, on reparlera data engineering. Si ça existe encore, ce truc-là. C'est drôle, ça me fait
Data?
penser. Ouais, Dota, c'est quoi? Ça me fait penser, je suis allé on a fait un meet-up où on a parlé. Avant-hier, c'était un meet-up DLT. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un mec qui est venu présenter au meet-up DLT, qui est genre CEO d'une start-up française, quoi, qui fait un certain nombre de revenus en millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros. Et il a dit, bah, j'avais un data engineer, le data engineer il est parti, et du coup je me suis dit, bah, j'ai plus trop besoin d'embaucher quelqu'un, j'ai juste Claude Code qui fait tout pour moi. Genre, je donne les accès à mes outils et enfin, je fais que Claude Code puisse accéder à mes outils. Et quand il dit outils, c'était genre Query, Metabase, bah, du coup DLT. À la base, il avait Airbyte, et en gros, il y avait que plein de bugs sur Airbyte. Et son talk, c'était genre, comment j'ai migré tout mon setup Airbyte sur DLT en 5 jours, sachant qu'il avait genre une dizaine de sources différentes, des trucs comme ça. Et genre le mec il disait genre, ouais, je fais tout avec Claude Code, je crois que j'ai pas besoin d'équipe data, quoi.
Ouais. Bon, je pense que sur 5 jours ça a bien marché. Après, faut voir avec du recul sur une année ou deux.
Ouais.
Mais
Non, la migration ça a
après, je
duré
pense
5
que.
jours avec Claude Code, mais après genre ça fait genre des mois que en gros il a plus de data engineer et qu'il gère tout seul avec Claude Code, quoi.
Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que la valeur, elle shift clairement, quoi. La valeur, elle est en train de se concentrer sur des verticales très précises. Je pense qu'on peut en discuter après.
Ouais, bah c'est marrant parce que c'est
Mais
un peu
là.
les premiers articles que j'ai, ils parlent un peu de ça, quoi. Mais vas-y, pardon.
Mais ouais, bah après on peut commencer sur cet article justement. Je pense que justement ça c'est spécifique un peu aussi à l'équipe data où en gros il y avait une partie du job des équipes data, c'était un peu de pondre du code, faire des tests, déployer, etc. Et ça du coup c'est une valeur qui est complètement qui existe le plus vraiment, ou il y a du moins qui a été outsourcée à d'autres aux agents, etc. Et du coup ça pose la question, c'est toi en tant qu'ingénieur ou en tant qu'entrepreneur, où est-ce que tu veux te positionner, quoi?
Ouais, c'est ça.
Parce que là, ils ont dans 6 mois, ils seront vraiment encore plus puissants qu'aujourd'hui, probablement. Alors après, est-ce que la courbe, elle va s'aplatir? Ça, personne ne le sait, mais bon, je pense qu'on peut faire l'hypothèse que les modèles vont encore s'améliorer. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ton positionnement? Et c'est, voilà, moi, c'est ce qui m'a occupé un peu tout le mois de janvier. Et puis, j'ai identifié un peu trois, je pense, trois domaines, qui peuvent être intéressants. Et là, par rapport à ton anecdote juste avant, le premier domaine, je pense, c'est les specs. Je pense que
Ouais.
les agences sont super bons à écrire du code, mais voilà, ce qui est le facteur limitant aujourd'hui, c'est écrire des specs. Et je pense que le CTO que tu as mentionné, il a réussi à migrer puis gérer sa stack tout seul parce qu'il a les specs dans sa tête déjà. Il connaît probablement, il a déjà une certaine intuition, il connaît les outils, il sait à quoi sert chaque outil. Et du coup, je pense qu'une valeur ajoutée qu'il peut y avoir sur un marché, c'est délivrer des specs pour des gens qui n'ont pas cette expertise.
Ouais, ce qu'il disait, c'est qu'il disait de manière très imagée, il se transforme du coup en copy-paste monkey pour le LLM, quoi. Parce qu'en fait, il y a des trucs où le LLM peut pas avoir accès, parce que c'est du knowledge qui est soit pas accessible, soit qui est du knowledge qui est à des endroits, t'as pas envie qu'il ait accès parce que il y a des trucs critiques et des trucs comme ça. Et du coup, tu te transformes un peu en le LLM, il te dit, ah, va dans l'interface de Google, cliquer sur cette page, va cliquer sur cette page, reproduis ce truc-là et donne-moi la valeur de ce champ-là pour que je puisse travailler, s'il te plaît, tu vois. Et du coup, tu te transformes un peu en esclave de l'AI pour aller lui chercher des trucs. Et en plus de ça, bah, du coup, tu lui donnes tes idées, quoi. Mais ouais.
Ouais, il y a ça, il y a l'aspect data science pour les specs, mais il y a aussi l'aspect architecture, non? Enfin, j'ai l'impression que quand tu le laisses aller tout seul, le
Ouais,
LLM, ça
bah,
pond une
architecture. Tu parles infra, ouais, c'est. Ouais,
Ouais, exactement. Du coup, savoir quel outil choisir pour quel job, comment les agencer, comment déployer, comment, etc. Ça, je pense que c'est toute une partie qui est dans les specs et que là, aujourd'hui, c'est l'humain qui doit l'apporter. Et là, je pense que c'est là qu'il y a moyen d'avoir une valeur ajoutée
ouais.
là-dessus.
Et bah du coup pour, je pense il y a un truc qui résume plutôt bien ça, c'est genre du coup Capartee qui était chez Tesla et founding team OpenAI, il a écrit des notes après avoir genre utilisé Claude Code pas mal de fois genre ces dernières semaines, et je pense qu'il fait que ça. Bon, c'est assez long, mais c'est quand même plutôt rangé en termes de catégories. Bon, ce qu'il dit, c'est qu'au début, il était à 80% manual, autocomplete et 20% agent. Et maintenant, il est passé dans l'autre sens où il fait 80% agent coding et maintenant seulement 20% edit par rapport à décembre, tu vois. Ce qui est quand même un switch significatif. Et donc après, il dit, bon, maintenant, il y a de moins en moins besoin de l'IDE, la hype du agent Swarm. C'est too much right now, blablabla. Et après, il y a des trucs qu'il dit qui sont intéressants. C'est genre ça, par exemple. Tu vois, genre, c'est trop intéressant de voir un agent qui essaie de travailler sur quelque chose. Ils sont jamais fatigués, ils sont jamais démoralisés. Ils vont juste, enfin, ils continuent jusqu'à ce que ils y arrivent. Et en gros, c'est un peu le feel de AGI moment où tu le vois struggle pour quelque chose. Il fait des trucs, il lance, et franchement, c'est ouf quand tu le vois. Il lance des commandes batch et il continue ses commandes batch, il continue ses commandes batch jusqu'à un moment où oh, c'est bon, ça marche. Tu sais pas trop ce qu'il a foutu pendant genre un certain temps. Et je pense que ce truc est assez fort, tu vois. Genre, they never get tired, they never get demoralized.
Ouais, ça c'est intéressant. Mais surtout, je pense au niveau de dans la manière dont on construit les produits. C'est-à-dire qu'en fait, on est habitué à avoir des produits qui sont ultra structurés. C'est-à-dire que voilà, tu as une feature qui fait ça, puis ton outil, il structure tout, il contrôle tout. Alors qu'avec, si tu as des agents qui peuvent voilà, essayer jusqu'à ce que ça marche, c'est-à-dire que tu peux vraiment outsourcer des features un peu on the fly
Ouais.
dans ton outil.
Ouf.
Et avoir un agent qui code du Python dans ton SaaS, c'est aujourd'hui un truc que tu vois nulle part. C'est probablement un truc qu'on va commencer à voir bientôt.
Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, genre, là, j'étais en train de bosser sur Nao sur une page où tu vois, t'affiches les statistiques d'usage de LLM et des trucs comme ça. Et en fait, y a un gros sujet dans plein de SaaS, c'est trop chiant d'accéder à la donnée de ton SaaS, tu vois. Genre, t'es obligé de connecter une API, enfin, faire une stack data pour accéder à la donnée de ton SaaS. Bah, demain, genre, pourquoi tu. Tout le monde ne pourrait pas juste mettre un chat avec les datas de ton propre SaaS. Tu vois, genre juste quand tu es dans les settings de ton SaaS, tu peux juste chatter avec la data de ton SaaS et le truc, il te build un dashboard à la volée de ton usage de ton SaaS.
Ouais, carrément, carrément. Oui, exactement. En fait, même pas forcément sur tes data, même sur ton interface.
Ouais, sur ton interface même, juste tu demandes, ah putain, c'est où dans les settings ce truc-là? Et le truc, il navigate et il t'envoie dans les settings à l'endroit où tu veux, où tu cherches le truc ou des trucs comme ça.
Ou même, par exemple, si tu veux un bouton rouge à la place d'un bouton bleu sur ton
Ah oui,
Salesforce.
ouais, de ouf.
C'est-à-dire, en fait, chacun peut avoir créé customiser sa propre interface.
Ouais.
Vu que ça vit dans son browser, ça ne vit nulle part ailleurs. Et puis, je pense que c'est aussi
Vas-y.
ça que le mouvement un peu Open Close, je crois que c'est le nouveau nom.
Ouais.
C'est pour ça que ça a bien marché. C'est pour ça que les gens, ils adorent, quoi. Parce que, bon, je pense qu'il y a un aspect interface qui est cool, avec le WhatsApp, etc. Et puis l'aspect aussi que, enfin,
Ouais.
l'agent peut écrire son code Python et résoudre les problèmes lui-même. Et il est assez bon à ça. Donc, ça donne un outil qui s'auto-étend. Et puis ça, en tant qu'utilisateur, surtout pour un cas d'usage où c'est un assistant personnel, c'est juste incroyable, quoi. Et je pense que ça explique aussi la hype qui est autour de ça.
Ouais, je pense que c'est le s'auto-étant et qui et surtout je pense le personnel, tu vois. Je pense t'as un peu plus un sentiment de personnel quand il s'installe en local, que tu peux le contrôler depuis ta messagerie versus tu vois genre Claude qui est un peu un environnement, enfin Claude ou OpenAI, tu vois, qui sont ou ChatGPT qui sont des environnements un peu, t'as l'impression sanitized, tu vois. Genre là, t'as l'impression que genre le truc juste il fait n'importe quoi et qu'il a pas de limite, quoi.
Oui, je pense qu'il y a plein de limites. Il y a clairement des choses qui doivent maturer encore,
Ouais.
mais l'idée, elle est assez incroyable. Enfin, le concept, je trouve il est fou. Et ça va probablement devenir la baseline pour tous les outils, non? Je sais
Voir. Je pense qu'il y a tellement de
pas.
questions. Ça dépend du type de, tu vois, d'usage que tu veux cibler. Parce que, genre, dans des usages entreprises, je dirais à l'ancienne, mais genre post, bon, plutôt pré, le monde qu'on a maintenant, il y a plein de trucs, ça rentre pas juste dans le cadre.
Ouais. Et je pense que ça va être. C'est comme, voilà, par exemple, quand tu fais une recherche sur Google, tu as un temps de réponse en quelques millisecondes ou moins. Et bah, du coup, ça devient un peu le. Si tu veux recréer un agent de recherche en interne dans une entreprise, les gens, ils s'attendent à avoir les performances de Google.
Ouais, c'est ça.
Et je pense que ça. Les gens, ils vont projeter ça sur leurs outils, de travail après.
Ouais.
Et c'est les attentes à moi. Juste, voilà, pourquoi est-ce que j'ai pas un agent qui crée ses propres outils
D'ouf.
pour résoudre mes problèmes, quoi.
Après, ouais, sur l'article, bon, il y a la partie speed up, c'est pas encore clair aujourd'hui comment on mesure ce que ça nous speed up. Bon, le leverage, c'est un peu la même chose, c'est genre quand il va meet ses goals, field de AGI, machin. Et après, là, il y a ça qui est cool. Il y a ces deux trucs-là que je trouvais assez cool. Genre fun, il dit. J'avais pas anticipé que quand tu fais du agent programming, bah du coup, quand tu fais des agents, faire du développement, ça devient beaucoup plus fun, quoi. Parce qu'en fait, tu restes moins bloqué sur des choses, du coup, tu penses plus à la next step. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu as un truc qui est en train de tourner, du coup, tu penses à l'étape d'après, où tu vas jouer avec ta UI et tu dis, ah oui, mince, maintenant ça sera le nouveau truc. Du coup, tu pile up des tâches à la suite, ou tu démarres un autre work tree à un autre endroit, ou ce genre de choses. Donc, le développement redevient beaucoup plus fun et tout le monde joue là-dessus. Moi là-dessus, je me suis quand même dit à des moments, je suis d'accord que le développement, à des moments, ça devient plus fun. Et à des moments, franchement, ça devient. T'as l'impression de juste perdre le contrôle et. Enfin, ce qui me mettait le. Il y a un article, là, je ne l'ai pas pris, mais il y a un truc qui était très cool quand tu faisais du dev à un moment donné, il y a genre 10 ans ou 5 ans, sans faire de gatekeeping. C'est que quand tu pensais à un problème, tu y pensais fort. Genre, juste quand tu avais un problème algorithmique, c'était fort et genre intellectuellement, c'était plaisant de le craquer. Tu vois. Là, maintenant, on a l'impression qu'on a plus ce truc-là.
Je pense que c'est juste qu'il s'est décalé. Il y a au mieux d'avoir un problème de code qui t'occupe toute la journée. Je pense que c'est plus un problème d'output qui t'occupe toute la journée, quoi.
Ouais.
Comment est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème-là? J'ai l'impression, moi, je pense que je suis moins pris par des problèmes techniques ou d'optimisation technique et plus pris par l'output de ce que je construis, quoi.
Ouais.
Qu'est-ce que ça dit? J'ai l'impression. Mais je suis pas sûr de ça. Je suis en partie d'accord avec toi, je veux dire.
Ouais, ok.
C'est
Non,
quand même moins, ouais, je sais pas, c'est un peu différent.
mais je suis
C'est
d'accord qu'il
clairement
y a un
différent.
sujet sur. De toute façon, pour faire les systèmes, il faut quand même les penser de manière globale parce qu'en fait, tout ne va pas marcher avec un seul gros fichier dans lequel il y a tout le code. Donc, il faut quand même réfléchir de manière un peu plus architecturale, à quoi ça s'intègre, ce genre de choses. Et ça pose quand même des problématiques et ça te fait réfléchir. Mais il y avait quand même un truc, genre. Enfin, moi j'ai toujours trouvé cool un peu de faire du un peu de design, d'essayer de faire des jolis trucs en CSS, de bien aligner les choses et tout. Et ça, genre, tu le perds, tu passes plus le petit crafting à t'amuser, tu vois. Genre, juste polish, tu vois. Tu sais, c'est comme quand tu fais une petite œuvre, tu polish ton truc jusqu'à la fin. Ça, tu le fais plus trop, tu vois.
Ouais, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord.
Après, il y a ça, là,
Ça je
tu
suis d'accord.
dis, qui est intéressant, c'est genre atrophie. Je me suis déjà rendu compte que je devenais doucement, j'arrive moins à écrire du code manuellement. Et en gros, il dit, ce qui est intéressant, c'est que écrire du code et lire du code, c'est deux différentes capabilities dans le cerveau. Et du coup, tu peux review code just fine, mais tu vas potentiellement struggle à genre l'écrire et ainsi de suite, quoi. Enfin, demain, genre, notre cerveau, pour faire du code, il va être habitué différemment, quoi.
Ah, ça c'est clair.
Genre, on perd
Je
la
le ressens
capacité
déjà.
cognitive, quoi.
Ouais, elle se déplace.
Ouais, elle se déplace.
Voilà. Toi, c'est comment tu utilises? C'est quoi un peu ton. Je sais pas.
Moi, ça a pas.
Comment c'est. Ouais.
C'est assez. Pardon. Moi, c'est assez stable. Je suis cursor depuis. Enfin, j'ai toujours gardé cursor. J'ai un peu fait du cloud code à un moment, mais j'ai pas gardé. Je trouve que. Enfin, j'ai l'impression qu'au final, c'est la différence entre l'un et l'autre, entre cloud code ou cursor en mode agentique, est assez mineure, tu vois. C'est mon point de vue d'avoir aussi bossé, tu vois, sur les boucles agentiques. Je pense que c'est littéralement la même. Donc, je suis assez bien dans cursor. Le truc que je fais le plus, c'est. Alors, mon raccourci, c'est commande maj L. C'est genre quand je veux faire un truc, je préfère déjà spécifier le contexte et je suis vachement dans la spécification de contexte pour le scoper vachement parce que je préfère avoir quand même de l'ownership sur le code que j'écris. Je veux pas trop que ça parte en live et que je sache pas ce qui est en train de sortir. Mais ça, c'est parce que c'est quand tu builds un produit, que tu as envie de vendre et tout, j'ai quand même envie d'avoir de l'ownership sur le truc, tu vois. Et après, j'ai toujours un cloud code ouvert dans le terminal qui m'aide pas à coder, mais qui m'aide plus à réfléchir en dehors, qui m'aide à. Quand je suis en train de faire du bash, j'ouvre un cloud code instantanément et je lui demande de faire le truc en bash. Ou quand j'ai une tâche à faire, whatever, je demande à cloud code de m'aider dessus, tu vois. Mais sinon, c'est genre cursor la plupart du temps avec une clé anthropique branchée en usage-based sur Anthropic directement.
Ah, lui, ça tu pèses.
Ouais, bah je suis,
Et
mais parce
t'as
que j'ai des crédits
cette.
anthropiques. En fait, j'ai des crédits anthropiques et du coup, j'ai mis ma propre clé dans cursor et j'utilise mon propre endpoint anthropique.
Et en général, tu fais comment? Est-ce que tu isoles tes changements, parce que ça peut le débat en ce moment, au worktree ou non? Est-ce que tu isoles complètement tes agences sur des worktree distincts? Ou comment est-ce que tu gères le truc?
J'ai deux worktree max, enfin genre j'en ai setup que deux. Et en fait j'ai fait un peu du worktree à un moment, mais je trouve que mentalement j'arrive pas. Et donc en fait je suis principalement toujours sur une branche. Mais c'est juste que sur une branche je peux faire potentiellement deux choses différentes et à la fin quand je fais mes commits je resplit, tu vois. Mais j'ai du mal à mon cerveau il n'y arrive pas. Enfin ça déjà le gros problème que j'ai c'est donc j'ai rajouté récemment ça. Ça me met un petit son quand ça a terminé de tourner, parce que sinon à chaque fois je partais faire autre chose et j'oubliais que ça avait tourné.
Ouais.
Mais sinon j'ai une capacité de focus qui est catastrophique. Et genre quand tu lances un agent et que tu sais que ça va tourner longtemps, tu pars faire autre chose. LinkedIn, lire des articles, penser à autre chose. Et du coup tu perds complètement ton focus.
Est-ce que tu le regardes travailler?
Parfois, ça dépend sur quoi je bosse, tu
Sur les trucs critiques, probablement, plus.
vois. Ouais, ou sur les trucs où. Franchement, ça dépend. Et en fait, j'ai installé une app cette semaine que j'avais trouvée sur genre Hacker News, qui s'appelle genre App. Franchement, c'est des apps comme ça qui sont très cool, c'est genre ce petit truc-là. Et en fait, c'est un truc où, quand tu démarres, tu dis quelles sont pour une session les apps que tu autorises. Genre là, tu vois, genre j'ai juste, ouais, juste une allow list d'app. Et si jamais je le lance et que je vais sur un website qui n'est pas autorisé, ça fait genre ça. Ça pourrit mon écran comme ça m'évite de me défocus des trucs.
Moi j'ai fait pareil, enfin j'ai utilisé la même chose pour mon téléphone.
Ah, sur le téléphone, c'est pareil.
Et ça marche. Enfin, j'ai bloqué tout. Et enfin, ouais, avec un petit 3, enfin ça a des certaines limites par application, etc.
Ouais.
Et ça marche, quoi. Malheureusement,
Moi,
j'ai
sur le
besoin de
téléphone,
ça,
je le
quoi.
respecte
Au
pas, c'est
moins,
trop dur.
ouais, bah après, à un moment, t'es obligé d'avoir un certain. Tu peux pas avoir un bloqueur ultime.
Ouais.
Après, ouais, pas évident. Et je pense que dans le travail, ça se ressent beaucoup aussi. Être capable de se concentrer sur une tâche. Et en fait, probablement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir des problèmes techniques plus avancés, ou du moins très techniques, plus techniques, je pense que ça aide aussi à rester concentré.
Ouais, de ouf.
Et le fait d'être à un niveau un plus haut, tu es dans l'orchestration, et ben, je pense que c'est beaucoup plus dur aussi pour la concentration. Alors qu'en fait, tes décisions, elles ont encore plus d'impact. Parce que entre écrire une ligne à une fonction à la main ou demander à un agent de résoudre 10 stories, ben ton impact va être beaucoup plus grand. Donc, du coup, chaque décision, tu devras mettre encore plus d'énergie dedans.
Ouais.
Et c'est pas forcément ce qui se passe, j'ai l'impression.
C'est marrant parce que ça me fait penser, tu vois, genre quand j'ai commencé ma carrière, la raison pour laquelle je suis software engineer, tu vois, et je me suis dit, je vais plutôt faire de la data parce que je trouve ça, enfin, je trouvais qu'il y avait plus de profondeur que genre faire des formulaires sur des sites web. T'es un peu hautain en disant ça, tu vois, mais c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé ma carrière, tu vois. Et c'est un peu ce truc-là, tu vois, Léa, il y a un moment, tu te dis, bon, bah, quand je vais juste edit ce truc React, est-ce que j'ai besoin de me casser la tête de comprendre comment c'est fait, ou est-ce que je peux juste lui dire, vas-y, fais-le et have fun, quoi. Genre, pas besoin de perdre du temps à écrire le changement de couleur ou l'ajout de bouton, tu vois.
Et du coup, c'est quoi ton feeling dessus?
Bah,
C'était un bon choix de carrière ou pas?
oh, moi, je suis très content d'avoir fait de la data. Hein. Alors après, là, du coup, actuellement, j'en fais moins depuis un an. Tu vois. Au final, je build un produit data, mais j'ai tellement de data. Et moi, je suis assez content d'avoir fait tout ce que j'ai fait en data parce que je trouve que j'ai fait du software, mais d'une autre manière. Et après, en data, moi, j'ai quand même fait beaucoup d'infra et tout. Donc, c'est pour ça que c'est aussi simple. C'est que quand tu fais de l'infra, pense à des trucs que tu penses pas quand tu fais juste ça. Je sais pas. Après, j'aime bien faire du front et tout à fait. Et c'est marrant sur ce truc-là de paralysie. Enfin, c'est juste sur cet article, le truc que je trouvais intéressant. C'est genre le workflow où, genre, tu démarres une feature. Le code, il le fait rapidement. Pendant que c'est en train de tourner, tu penses à un improvement. Du coup, tu démarres un nouveau worktree, tu fais genre une nouvelle tâche en background. Maintenant, tu as deux choses qui sont en train de tourner. Ah, tu as une nouvelle lady. Bah, du coup, tu fais un nouveau worktree. 1 heure plus tard, tu as 5 worktrees. Tous, ils ont fait des alpha implemented features. Tu te rappelles plus de ce qu'il y avait, machin. Tu reprends. Et en fait, tu te fatigues et tu burn out un peu sur le truc, quoi. Et à un moment, tu give up. Et c'est là où tu as raison. Hein. Je pense que c'est là où tu as une charge mentale et que. En effet, intellectuellement, c'est dur parce qu'il faut arriver à switcher entre tous ces trucs facilement et c'est un autre modèle mental de travail, quoi.
Bah c'est Yagi, je sais pas si tu connais, un gars
Non.
qui a fait un framework d'orchestration d'agents, en gros avec l'idée de passer à 20 agents que tu manages en parallèle.
Ok.
Et disait, on a remarqué avec tous les. Enfin, ils sont, je crois, un peu un groupe de 4 ou 5 gars qui essaient de pousser les trucs au maximum. Et il disait, on a tous besoin de faire une sieste en début d'après-midi. Parce que vraiment chaos. Après quelques heures de travail dans ce setup, que en fait notre rythme de sommeil il a été complètement bouleversé. Ça, je crois. Et en effet, je pense que enfin, je suis pas encore là.
Ouais.
Mais c'est clair que c'est beaucoup plus fatigant. C'est beaucoup plus fatigant et puis ça demande beaucoup plus d'effort mental pour rester dedans. Ça, c'est vrai.
Bah, ça, c'est la métaphore qu'on avait eue quand Sam Altman il était venu à Waze en juin. Il nous disait, bah, est-ce que demain, faire du software, c'est pas genre comme si tu faisais du StarCraft et tu manages genre plein de trucs qui build des choses. Et genre là, tu vois, Capartee, il dit, qu'est-ce que c'est LM Coding Fill in the Future? Is it like playing StarCraft, playing Factorio, playing Music? Genre un truc où tu composes un truc beaucoup plus large, quoi.
Ouais, je me demande où est-ce que ça va s'arrêter, c'est ça la question.
Ouais,
En
je
gros,
sais
il y a des
pas.
modèles tous les mois, on a rien encore.
Mais en
Mais
fait.
ça, je crois que je sais pas, je pense que personne. Vraiment, mais.
T'as dit quoi?
Je pense que personne ne le sait vraiment, parce qu'en gros, les
Ouais,
gars
ouais.
qui sont dans les labs, ils sont clairement biaisés. Et donc, je sais pas de source d'information pour me faire vraiment une opinion là-dessus, de ce qu'on en est.
Bah, je pense qu'il y a deux, il y a deux, il y a deux motions, tu vois. Genre, il y a les labs qui font de manière unitaire, qui bossent sur leur modèle. Genre, bah, rendre le modèle. tout seul plus fort, qui est capable de faire des tâches plus longues, qui est capable de boucler plus longtemps. Et de l'autre côté, il y a dans les mêmes labs ou des boîtes, toutes les boîtes qui sont autour, qui font toute l'orchestration systémique autour, tu vois. Leur faire que deux agents puissent travailler ensemble, enfin que deux modèles du coup unitaires puissent travailler ensemble, des trucs comme ça. Et tu sais pas ce que c'est le truc qui va gagner. Est-ce que c'est le software qu'on build autour et tout le bridge qu'on essaye de faire avec le vrai monde ou l'orchestration ou tout ce jeu qu'on fait en ce moment, tu vois, genre tous les skills, tous les trucs de dumper ça dans des file systems, des instructions à l'infini, à l'infini, à l'infini. Ou est-ce que c'est juste les labs, ils vont être tellement forts qu'ils vont embed tellement de choses dans le modèle que en fait tout le, tu sais, le sucre qu'on met au-dessus ou le château de cartes qu'on build sur le truc, en fait, il sert plus à rien à la fin, quoi.
Ouais, ça, là, je pense que mon opinion, c'est clairement que tout va finir dans les modèles. En fait, tu vois, dès qu'il y a des features qui sortent, des outils qui sont sympas, qui marchent bien, genre Beats, par exemple, pour le task tracking, bah, en fait, là, Claude Code l'a implémenté quelques semaines plus tard.
Ouais.
Et là,
Mais du coup, est-ce que
et...
Claude Code, on dit que c'est le modèle ou Claude Code, c'est quand même, c'est un agent, enfin en gros, t'es pas directement branché à Sonnet ou Opus, tu vois, il y a Claude Code qui est genre un orchestrateur on top, tu vois. Mais en effet, c'est le lab qui le produit. Mais t'as une couche de software quand même au-dessus de cerveau, quoi.
Ouais, mais après, ouais, exactement. Après, ils doivent quand même entraîner une... du. Ouais, en fait, ouais, mais après, les deux sont complémentaires, non? Les deux
Oui.
sont imbriqués.
Ouais.
C'est-à-dire, ton software dépend des capacités du modèle. Je pense que si tu entraînes ton modèle pour être capable de gérer des tâches, pour être capable de faire, bah, s'orchestrer avec d'autres modèles aussi, et bah, c'est des briques que tu peux mettre après dans ton software par-dessus, niveau interface.
Voilà, tu vois, genre en ce moment là, ils sont Claude, ça c'est ce truc expérimental là qu'ils ont sorti, que tu peux utiliser dans Claude Code, j'ai pas utilisé pour l'instant. Tu peux utiliser des Experimental Agent Team, et du coup, tu peux définir des teams d'agents qui bossent entre elles et qui font, genre, tu peux expliquer, genre, une compagnie, tu peux dire chaque player dans la team, qu'est-ce qu'il fait, enfin, chaque teammate dans la team, qu'est-ce qu'il fait, et ils fonctionnent comme une Agent Team. Ils ont fait une démo vidéo, je l'ai pas là, où ils montrent comment ça marche ce truc là.
Je sais pas, ouais, après, quand je vois ça, le feeling que j'ai, c'est que quand même, le cross lab, ça a quand même pas mal de valeur. Enfin, moi, je sais qu'en général, j'ai pour le moment Claude Code qui écrit le code et Codex qui le review.
Ouais.
Puis les deux, ils jouent ensemble et ça marche plutôt bien parce qu'ils ont des forces un peu différentes. Et du coup, je pense que le sujet de l'orchestration, il est quand même aussi, il doit être fait par un acteur tierce probablement pour tirer le plus de valeur de l'écosystème. Par exemple, on voit les modèles Kiwi, c'est ça? Kiwi 2.
Kimi, enfin, ça dépend.
Kimi, voilà.
Kimi, les ouais, si.
Et niveau performance, j'ai testé rapidement, mais on arrive à avoir des choses un peu similaires.
Ouais.
Mais je pense que dans 6 mois, je crois que dans l'écart entre l'open source et le commercial, de toute façon, il cesse de se restreindre. Donc probablement qu'au cours de cette année, on aura des modèles open source qui vont vraiment avoir, bah, déjà le niveau d'aujourd'hui d'Opus 4.5. On va l'avoir dans quelques mois, ou déjà presque aujourd'hui, dans
Ouais.
les modèles open source. Et qu'en fait, tu as un arbitrage après à faire. Est-ce que tu prends l'open source pour certaines tâches? Tu prends le commercial qui est un peu en avance sur d'autres tâches? Parce que là, niveau coût, etc. Et donc, je pense que tu as, voilà, pour revenir sur l'orchestration, je pense qu'il fera sens cross-model, cross-provider. Et c'est pour ça que je pense pas que ça doit venir d'un éditeur.
Ouais, probablement. Après, ah bon.
Vois,
Vas-y.
tu utilises un provider ou tu fais comment pour gérer? Comme tu sais, t'as Claude Code un peu à droite
Alors en fait,
et curseur à gauche, mais est-ce que tu utilises...
j'ai Claude Code pour certaines tâches et j'ai Cursor pour mes tâches de code. Et sur Cursor, je fais, franchement, j'ai essayé d'autres modèles et vu que là j'ai ma clé anthropique qui est dedans depuis 2 mois, je fais que des modèles anthropiques. Donc j'ai fait les sonnets, puis quand les Opus sont sortis, je passais sur Opus. Et là, enfin, j'ai essayé Opus 4.6 ce matin, je trouve qu'il était un peu à chier. Il voulait trop one-shot les choses et du coup, il s'en sortait pas. En gros, il faisait pas beaucoup de function calling, il était genre à raisonner à l'infini sans trop faire de choses. Du coup, ça a pas très bien marché. Mais je pense que c'est plus un problème de la manière dont Cursor l'a implémenté que Opus 4.5. Enfin, j'en sais. Et du coup, je suis repassé sur 4.5 là pour mes tâches et ça marchait très bien. Et ouais, pour l'orchestration, après, je n'ai pas trop de orchestration, mille trucs à faire parce que pour la review, là, en team, genre. Je laisse pas des agents, enfin, il n'y a pas d'agents qui review notre truc. Là, on a mis Claude Code sur le repo juste aujourd'hui, je crois. Donc maintenant, on va voir Claude Code qui va arriver. Mais sinon, on n'avait pas de review spécifique. Si, on avait Cursor. Et honnêtement, ce que ça sortait, c'était pas ouf. On avait genre le bot de Cursor qui faisait des reviews et il sortait des trucs juste de linting. Mais en fait, le linting, si on a un linter qui est correctement setup, on n'a pas besoin d'un agent pour le review.
Ouais, je veux dire que Codex, ça marche plutôt bien pour au moins choper les premiers bugs. Après, tu repasses toujours par-dessus.
Ouais.
Mais moi, je laisse les workers itérer avec Codex 3-4 fois avant de committer le truc. Et ça enlève déjà quelques bugs.
Ok.
Ça marche plutôt bien.
Genre, t'as Codex directement intégré dans GitHub, ça?
Non, en local.
Ah,
En
en
gros,
local, ok.
je demande à mon worker,
Il y a.
prends la prochaine
Ça me fait penser à. Il y
Roborep.
a. Je sais pas si t'as vu, il y a Wes McKinney là qui a développé un truc, genre Revero, ou je sais pas trop comment ça s'appelle.
Roboref.
Robot.
Ouais, ouais, c'est comme ça. J'ai discuté un peu avec lui sur LinkedIn. J'ai
Ok.
testé le truc. Ça marche. Mais c'est orienté. D'ailleurs, c'est un clic. Avant, je faisais plusieurs stories d'un commit. Et
Ouais.
lui disait non, non, en fait, tu commits aussi rapide, aussi fréquemment que possible et tu laisses la review se faire au niveau du commit.
Ok.
Parce qu'en fait, ce qui permet d'avoir. Parce qu'après, l'agent, il chope le commit et du coup, il a un peu il a le contexte. C'est-à-dire qu'il a tous les changes, il a Glorious tous les changes à review.
Et tu laisses les
Et
commits
donc,
se
du coup.
faire, enfin les commit messages, tu laisses au AI generated ou tu les écris à la main du coup?
Non, 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 en fait, mon prompt, c'est littéralement prends la prochaine story.
Ah oui, ok, j'ai compris.
Mets seulement tes changements et demande une review à Codex
Ouais.
et tu fais ça 3 fois,
Ok.
maximum 3 fois. Et ça marche plutôt bien. Après, ça peut clairement être optimisé,
Ouais.
mais j'étais assez content de ça. Et après, ouais, j'utilise un système, bah, je pense ce que je te disais, avec un MCP qui permet aux agents de parler entre eux. Et donc, ce qui fait que j'ai plusieurs agents qui travaillent sur différentes features, mais sur la même branche en local. Je n'ai pas de
Ok,
worktree.
ok, ok.
Et en fait, ce qui est assez ouf à voir, c'est qu'ils se coordonnent entre eux. Et en gros, ils disent, ah ouais, ok, toi, tu travailles sur ça. Moi, je travaille aussi sur ça. Ah ouais, toi, tu es responsable des changements. Moi, je fais mes changements là. Et donc, comme ça, ils arrivent à isoler leurs changements et à les commiter séparément.
Ok, c'est drôle.
Et c'est trop bien. Du coup,
Et...
plutôt que d'avoir des worktree ou qui sont cassés, eh ben, tu peux avoir pas mal d'agents qui travaillent sur la même codebase ensemble.
Et t'as regardé techniquement comment c'était fait ça? Genre comment ils font? C'est genre juste quand il y a un appel de MCP du coup qui est fait, qui récupère le statut d'un autre truc, du coup il se rajoute ça dans son contexte et il dit pendant les 5 prochaines minutes ou j'en sais rien pendant un certain nombre de temps je travaille pas sur ces fichiers-là en gros. Et après au bout d'un moment ça se release. Enfin il y a t'as regardé un peu quelle fréquence il se fait ces appels comme ça?
J'ai pas creusé.
Ok.
Vu que quand il y a. En fait, quand il y en a un qui regarde un fichier, il regarde quel autre agent travaille sur un fichier. En fait, un système de file reservation.
Ok,
Bon.
stylé.
Du coup, il se coordonne. Il y a un truc que là, il faut que je regarde. C'est le MCP, il peut pas aller pinguer un agent par lui-même. C'est toujours l'agent qui va tirer ses messages.
Ok.
Et donc, quand il va.
Ouais.
Donc, en fait, il faut que c'est lui qui doit aller proactivement voir les messages. Et donc, du coup, je pense que un peu, voilà, ça, je sais pas creuser exactement comment ça fonctionne.
Mais ça, c'est
Et en tout
difficile
cas,
parce qu'il y a rarement des trucs qui peuvent interrompre les agents. En gros, c'est assez dur de faire ça dans l'autre sens. Enfin, de faire que pendant qu'il y a un agent qui tourne, il y a quelque chose de l'extérieur qui fait de l'info, tu vois.
bah, toi, tu peux faire un peu. Toi, quand t'écris dans Claude Code,
Ouais, dans
tu peux le
Claude Code,
poser,
tu peux,
le
mais
mettre.
parce que Claude Code, avec sa UI, il le permet, tu vois. Mais enfin, t'as les agent hook de Claude Code, quoi. Mais je sais pas trop comment ils fonctionnent dehors de.
Ouais, à chaque fois que tu utilises un outil, tu peux leur mettre des hooks dedans. Mais après,
Ouais, c'est ça.
tu pourras toujours mettre ça accrocher à un hook et appeler à chaque fois et puis du coup
Ouais, c'est
réussir
sûr.
à interrompre le workflow. Mais ouais, c'est pour ça que ouais, quand tu regardes un peu les architectures des gars qui ont fait vraiment des trucs un peu plus avancés, ils ont toujours des daemons
Ouais.
qui viennent et puis qui pingent tout le monde dès qu'il y en a un qui s'arrête ou je sais pas qui a besoin d'infos et ça devient vraiment. Ouais, j'ai creusé, j'avais écrit un article il y a 2 semaines là-dessus parce que ça
Ouais.
m'intéressait de voir comment ça fonctionnait. Mais je l'ai pas vraiment mis en pratique pour être honnête, c'est un peu trop lourd. Ouais, et puis après tu passes trop de temps à créer l'outil pour faire l'outil.
Ouais.
Ouais, je pense que c'est un peu un piège aussi.
C'est clair. Juste, il y avait ça là que je trouvais ça intéressant, c'est sur l'annonce de la GPT 5.3 qui est sortie. Bon, il y a 4.6 et GPT 5.3 qui sont sortis ce matin ou hier soir, non, hier soir, au moment où on enregistre. Et le premier commentaire là sur Hacker News, c'était ce qui est intéressant, c'est que ces deux modèles divergent philosophiquement et montrent comment genre les ingénieurs ou les organisations ont divergé philosophiquement par rapport au code, tu vois. Quand il dit Codex 5.3, c'est un interactif collaborateur ou mid-execution. Tu donnes des choses, tu restes in the loop, tu regardes voilà si ça marche. Là où 4.6 c'est genre the opposite, c'est genre autonomous, agentique, système qui plane lui-même longtemps, tourne longtemps et qui a moins besoin d'un humain. C'est assez marrant de voir que du coup les labs partent un peu dans ces deux philosophies différentes.
Mais après, pour la version d'avant, j'ai l'impression que c'était un peu l'inverse, non? Dans le sens où Claude Code, il a besoin de plus d'assistance, alors que Codex, il va chercher des informations plus longtemps et il est un peu plus autonome.
Mais en fait,
Donc
ça
c'est
c'est.
marrant que c'est un
Ouais.
peu.
Peut-être que du coup, ils se copient, tu vois. Genre, à chaque fois, ils se disent, ah putain, si je prenne les utilisateurs de l'autre, faut que je fasse comme l'autre, tu vois. Mais en fait, je trouve que Opus 4.5, il était assez bon sur ce truc. En fait, parce que moi, vu que la plupart du temps, quand j'utilise Opus directement via Cursor, et du coup, j'ai pas trop la vision en Claude Code pour le gentil coding. Et je trouve que Opus, il était quand même bon sur. Tu lui donnes une tâche, il comprend ce que c'est la tâche et t'as pas besoin de le steer midway, quoi. Genre juste, il s'arrête pas tant qu'il a pas compliqué la tâche. Il est assez fort là-dessus, Opus. Et probablement que Codex, si tu dis que
Ouais.
Codex est fort là-dessus.
Je trouvais que, enfin, quand je donne typiquement des tâches de planning, Codex, il va vraiment passer du temps à bien comprendre, à vraiment creuser De manière assez approfondie la code base, alors que Opus il va plus aller en mode voilà, regarder vite fait un peu à droite à gauche, puis il m'a déjà sorti un résultat. Puis là, je dois encore lui redemander de regarder en
Ok.
profondeur certains aspects. J'ai besoin de plus de back and force. Bah après, ouais, c'est vachement biaisé, c'est mon expérience. Je suis pas
Non
du
mais t'as
tout
raison.
de.
Je pense d'ici la prochaine session, enfin le prochain qu'on enregistre, je sais pas, on n'a pas donné de nom, mais la prochaine qu'on enregistre, je pense que je vais faire du codex. Je vais mettre ma clé OpenAI sur Cursor et je vais bosser en codex pendant une semaine pour voir. Et comme ça, j'aurai un feeling, une comparaison.
Et bah, ça me fait penser, le gars qui a fait ce MCP là, je me souviens avant,
Ouais.
il disait en fait la puissance, c'est pas forcément enfin, d'avoir deux cloud codes qui se parlent entre eux, mais d'avoir des swarms où tu as différents providers qui parlent entre eux. Et enfin, lui aussi l'a mentionné comme étant vraiment la valeur ajoutée de son truc. Et ouais, je pense qu'il y a des trucs à aller chercher là,
Ouais, c'est clair
autour de ça.
que en fait, quand tu y réfléchis, enfin, c'est mimique un peu, tu vois, genre la vraie vie, c'est dit, quand tu fais une peer review, c'est parce que tu veux qu'il y ait un autre être humain qui regarde ton code avec un autre prisme. Et donc, si tu dis que le modèle, enfin, ça a été entraîné d'une manière de penser, une manière de réfléchir, t'as pas envie que ça soit le même type de provider qui fasse la review. Et moi, ça me paraît complètement clair, tu vois, genre, ça, bizarre de se dire, bah, j'ai écrit en Opus 4.5, puis je redemande à Opus 4.5 de se re-regarder. Est-ce que, bon, l'esprit n'existe pas, mais juste est-ce qu'il va être capable d'aller chercher les bonnes choses? Bah, ça dépend des prompts que tu lui dis dans ton agent de review. Mais je pense que c'est bien de en plus changer le provider, de demander à plusieurs providers, parce qu'en fait t'as
Ouais.
enfin juste tu mets une note vue de pensée quoi. Une pensée veut dire quelque chose
En fait,
derrière.
le Opus qui regarde Opus, c'est le concept de la Ralph Loop, là,
Ouais.
où tu joues à chaque fois avec des contextes vidés. Et donc, ce qui fait qu'il a un nouvel. Bon, tu joues en fait sur le contexte. C'est purement le contexte. Tu espères que le fait d'enlever le contexte redonne un peu des nouveaux insights. Et d'ailleurs, il faudrait que j'essaye ça, mais faire ce type de loop cross-provider, je pense que c'est ça le mieux, probablement, plus
Ouais.
efficace.
Après, c'est drôle, tu vois. Genre, là, ce matin, j'avais un call pour un truc freelance que j'avais pas fait longtemps. Donc, j'avais pas fini depuis longtemps. Et c'est genre pour un ministère. Et au ministère, maintenant, ils ont des chats internes. Enfin, il y a un chat ouvrant français qui est basé sur Mistral. Genre, ça s'appelle IA assistant pour un numérique, pour un truc comme ça. Et genre, on bossait sur. Enfin, on regardait un truc. Et la personne avec qui je parlais, genre, pose une question, demande à écrire un truc Nginx. Et franchement, la réponse, moi, j'avais de l'autre côté, genre, j'avais demandé le truc à Opus et à ChatGPT. Franchement, il y a des moments où tu te dis les datasets d'entraînement c'est littéralement la même chose parce que l'output était quasiment la même chose quoi. Enfin, genre le bout de code écrit proposé par les trois était quasiment similaire. Et la
Ouais,
manière dont c'était
bah
framé
ouais,
et tout, tu
bah,
vois.
c'est intéressant. Hein. Ouais. Tu travailles beaucoup avec des labs hors OpenAI et Anthropic.
Bah, dans Nao, on supporte Gemini en plus. On avait Mistral à un moment, on l'a enlevé parce que ça marchait pas. Enfin, c'est juste que pas grand monde l'utilisait et qu'il y avait un plus de bugs. Et du coup, le ratio maintenance versus bug était trop élevé. Mais sinon, non, En fait, le truc, c'est que je suis quasiment que sur Claude, enfin, sur Anthropic pour tout ce que je fais. Sauf quand j'ai envie d'avoir une fraîche contexte et j'ouvre ChatGPT. Enfin, genre, mon réflexe, c'est genre, si j'ai pas trouvé sur Google, si j'ai pas trouvé dans le truc que j'étais en train de faire, je fais nouvel onglet ChatGPT. Parce que, et je lui dump le truc brut et j'ai envie juste qu'il réfléchisse sans la pollution du contexte qu'il y a ailleurs. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait à un moment? Si, j'avais fait du Quen. À un moment, j'étais sur le truc hardcore. Genre, je lançais le Quen sur ma machine et je faisais des trucs sur ma machine. Mais bon, au bout d'un moment, la machine qui souffle quand tu bosses, c'est un peu insupportable.
Tu codes en local ou pas?
Bah non, enfin j'ai fait ça un peu. Genre j'ai fait ça avec Quen, j'ai fait ça avec GPT et OSS à un moment pour retester, tu vois. Mais le problème c'est que les modèles pour les faire tourner sur ta machine, ça te demande trop
Mets tes
de.
fichiers.
Ah oui, je code en local. Oui, je suis en local. Tous mes fichiers.
J'ai tout mis dans des VM.
Ouais, mais j'ai jamais trop aimé
Parce
moi
que.
coder sur des VM, ça me. Mais pas là, c'est plus genre la latence, la juste la praticité d'avoir tout en local et de pas être dans une VM, dans un Docker, dans un dev container, dans un whatever, c'est quand même vachement.
Ouais, j'ai juste fait pour utiliser le flag YOLO.
Oui, bah j'imagine.
Galère de gérer les permissions, ça me saoulait, ça me faisait perdre trop de temps. Je fais, ok,
Ouais.
j'ai pas envie de faire le faire en local. Et, bah, en fait, j'ai toute ma boîte qui est en local. Mais du coup, j'ai fait une VM et puis bam, j'ai plus de
Ouais.
preuve de permission.
Mais t'as fait une VM locale ou VM 10 ans?
Moi, j'ai pris un VPS
Ouais.
OVH avec 40 Go de mémoire. Et puis aussi, ça me permet de laisser tourner quand je suis pas là, quoi. Ça, c'est
Ouais.
bien.
Ouais, et tu peux y accéder depuis peu importe où tu te trouves, quoi. Enfin, tu peux
Ouais,
avec les apps,
exactement.
toutes les apps là où tu peux coder sur mobile et whatever. Ça me fait penser, il y
Et
a
puis je fais
genre.
du Tmux.
Ouais, ok.
Et du coup, ça c'est trop bien, quoi. J'ai toujours mes sessions qui sont toujours enregistrées. Je peux repartir, je peux switcher entre mes projets de manière ultra rapide. Ce qui est d'ailleurs un problème par rapport à l'attention, ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Du coup, j'en ferme. Je laisse ouvert que sur quoi je veux travailler sur les 3 prochaines heures. Sinon, en fait, voilà, CTRL Y, S, et puis je suis quelque part d'autre déjà, quoi.
Bah ouais. Ça me fait penser, genre, il y a cette boîte là, Morph, on l'utilise dans Nao, dans l'IDE pour. En gros, ce que ça te permet de faire, c'est quand tu veux apply du code. Ça, c'est plutôt quand t'es dev d'un agent de code, tu vois. Genre, t'as l'ELM qui te propose du code et tu veux l'apply sur ta code base. Bah, à un moment, il faut faire cet apply, quoi. Et du coup, c'est à la base, c'est ce qu'ils proposaient. Il y a un service où, en gros, t'as tes fichiers, t'as ton fichier modifié et ils sont capables de faire le bon apply de code. Parce qu'en fait, les apply de diff, ça pose plein de problèmes parce qu'en fait, à quelle ligne tu le mets, si t'as deux chunks que tu changes, ça peut être chiant. Et en fait, ils ont sorti un nouveau truc là qui s'appelle genre Browser Testing. Alors, quand est-ce que j'ai vu ça? Morph Glen, c'est ça. En fait, ils sont capables de te faire dans ta PR Review. Ils ont un agent qui tourne, qui va lancer ton code, qui va ensuite aller faire plein de reviews, mais visuels, tu vois. Et en fait, après, ils te mettent le recording dans ta PR. Comme ça, après, tu peux juste aller voir dans ta PR et voir ce que l'agent il a testé et si ça marche comme tu veux, tu vois. Et par rapport à ce que tu disais, tu vois, ça me fait penser, genre, en fait, tu peux tout coder en distant et après, le seul truc que tu regardes, c'est genre le recording de Glens sur ta PR et si ça te va ce qu'il a fait, quoi. Enfin, ce qui a été codé.
Ouais. Je pense que en effet, ouais, c'est probablement une des solutions probablement qui fait sens. Mais la review, c'est clair que c'est compliqué. J'ai pas trouvé de bon
Ouais.
interface GitHub. Un peu à la, ouais, je sais pas, tu connais, c'est un peu galère.
Bah ouais, d'où?
J'ai pas encore trouvé, j'ai pas trouvé de bon workflow pour ça. Et puis même si j'utilise Tmux, je regarde mes fichiers dans VS Code. Tu vois, j'ai un petit mini VS Code, c'est juste un fadio.
Ouais.
Je suis pas assez hardcore pour faire du NeoVim, même si j'ai un petit setup que l'autre code m'a fait, mais
Ouais.
je sais pas.
Qu'est-ce qu'on avait? Bon, ça on peut skip. Ça on pourra éventuellement parler une autre fois. Il y avait ça que tu voulais parler. Je pense qu'on peut en parler peut-être.
Ouais, bah ça c'est un gros chapitre. Je sais pas si on le
Ah, ok.
fait
On va pas faire
maintenant ou
une
la
autre fois.
prochaine.
Ok, pas une autre fois.
Ouais, je pense qu'on peut
On est à
presque
quoi?
on peut se passer 45 minutes dessus, donc
Ouais, bon, on est à 45 minutes de là. Peut-être wrap up quoi. Si tu veux,
ouais, ça me va.
je parlais de ça si tu veux. Alors, le truc que j'ai vu hier.
Clairement.
En gros, j'ai vu ça hier soir. Oh, non, ah, non, en fait, j'ai vu ce matin. En gros, c'est PyDentic. Ils ont release un Secure Python Interpreter qui est écrit en Rust que tu peux utiliser juste pour l'AI. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont wrap up en Rust le Python Interpreter et ils ont enlevé tout ce que tu veux pas que l'AI fasse. C'est-à-dire, tu sécures les outputs, donc c'est-à-dire qu'il peut pas accéder à tes file systems. À ton file system, sauf ce que tu lui donnes comme accès comme file system. Tu peux lui contraindre les ressources et pas mal de choses. Et ils viennent juste de le sortir, donc c'est le tout début, tu vois. Et en fait, ils te donnent un exemple de bah, quand tu veux faire de l'exécution de Python de manière isolée pour ton AI, bah, tu as tous ces trucs qui sont à ta dispo. Alors, tu peux utiliser Monty qui est ce projet-là. La start latency, c'est ça. Genre, leur truc, du coup, vu que c'est codé en Rust, genre, c'est instantané à démarrer. Versus, tu vois, un Docker où ça va prendre 200 millisecondes ou PyAudit qui va plutôt prendre 3 secondes et après t'as des trucs genre t'as un truc YOLO Python et des trucs comme ça et en fait ils disent en sécurité ils sont stricts par rapport à d'autres qui sont pas très stricts. En revanche ils ont pas la completeness du langage, c'est-à-dire que tu peux pas faire des pip install, tu peux pas mettre d'utlib parce que bah il faut que ça soit wrap up dans le Rust contexte
Mais tu
et
fais une image, enfin une sorte d'image, un contexte, tu peux prébuilder, je sais pas, des libs que tu veux pouvoir utiliser, des choses comme ça,
ben
comment
en
ça marche?
fait la manière dont tu vas plutôt le faire c'est tu peux pas embed les libs dans ce truc-là mais plutôt ce que tu vas lui faire c'est que tu vas lui dire, en effet, tu t'as des libs que tu peux importer à côté, et si tu les importes, tu dois les appeler en utilisant ces fonctions-là. Du coup, tu vas juste lui déclarer des fonctions qu'il a le droit d'utiliser. Alors, le problème, c'est je sais pas pourquoi le code, il est pas minté. Ah ouais.
Mais
Alors,
c'est trop bien pour BSL, ça. C'est
potentiellement, ouais.
incroyable même.
En fait, tu vois, par exemple, là, ici, il a dit, il y a une fonction qui s'appelle callLLM, tu vois, et cette fonction callLLM, elle est structurée et elle est extérieure. Et du coup, dans le main de Monty, là, il lui dit, tu as une external function à laquelle tu as accès qui s'appelle callLLM. Et c'est globalement, après, il pourra faire un import et l'utiliser. Tu vois. Et après, lui, il a juste à écrire du code Python. Et par exemple, là, j'imagine que ça, c'est le code Python qui est derrière. Pas, je sais, non, peut-être pas. Là, il n'y a pas l'exemple de. Ah, si, le code Python, il est là. Du coup, tu vois, il va écrire ce code-là. Et dans ce code-là, il va faire callLLM. Et callLLM va appeler, en fait, ce code Python qui est à l'extérieur. Et donc, en fait, tu peux avoir tes libs pandas, tes libs DuckDB, tes libs whatever qui sont extérieurs, que tu déclares en external function à ce truc-là. Et du coup, ensuite, le LLM, il comprend qu'il y a ces external functions qui lui sont à dispo. Il comprend qu'il y a un OS qui est à dispo parce que tu peux aussi lui donner l'OS système. Et ensuite, il va juste écrire du code. Et ce code-là, il est complètement safe parce qu'en fait, bah, il n'a pas le droit d'accéder à tout ce qui n'y est pas déclaré au moment où tu le passes, quoi.
Mais c'est pas trop galère. Enfin, je sais pas, là, j'imagine bien l'agent essayer de tester plein de trucs auxquels il n'a pas le droit avant d'arriver sur la solution optimale.
Ouais, ben en fait, là, je pense que j'ai un peu testé, donc il est implémenté dans Nao Vitof pour voir, tu vois. Et par exemple, en gros, là, si je lui dis using the execute Python list de file available, en fait, il faut bien prompter. Et donc là, dans le prompt, il sait qu'il a une fonction qui s'appelle list file, et donc il peut le faire, tu vois. Donc là, il a fait list file, et en fait, quand tu regardes le code Python, c'est juste list file, tu vois. Mais par exemple, si maintenant je lui dis compute,
LS,
ouais,
LS
non.
file.
Ouais, si je fais LSFiles, le problème c'est que dans mon Nao, j'ai un autre truc qui fait LS qui va prendre la main, malheureusement. Mais si je dis par exemple compute the price of all the fruits, parce que j'ai un fichier CSV qui s'appelle fruits, tu vois. Je pense qu'au début, il va écrire un code Python qui va pas marcher. Ah, ok. Tu vois, là, il fait import CSV, donc import CSV, ça, normalement, ça marche pas, parce que t'as pas le droit de faire import CSV. Et du coup, là, il a compris que. Pas encore compris, donc là, il lit le fichier. Ah, si, il l'a fait. Là, il a fait le top. Bon, voilà. Donc, au début, tu vois, il va essayer d'importer les libs qu'il connaît, donc soit CSV, soit Pandas. Ça va lui générer une erreur, et après, il va faire OK, bon, j'ai pas le droit, du coup, je me débrouille autrement. Et du coup, là, il a vraiment juste fait read file. Et ensuite, il a recodé son parseur du CSV lui-même, quoi.
Après, avec un système prompt, tu dois pouvoir déjà
Oui,
envoyer
je
pas
pense
mal
qu'avec un
d'erreurs.
système prompt, tu peux clean les trucs.
Intéressant. Ah, ça, c'est trop cool.
Et c'est trop stylé parce que du coup, là, bah, s'il veut lire des fichiers, bah, tu vois, genre le list file, il lui donne accès que à ces trucs-là. Et si en plus il dit in Python read de slash tmp folder, bah là, normalement, il n'a pas le droit d'y accéder. List dir tmp, bon, bah ouais, s'il n'a pas list dir, il n'a pas le droit d'y accéder. Donc normalement, il peut pas s'escape de ce truc-là, quoi.
Ah, mais c'est trop bien. C'est-à-dire que tu peux, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux vraiment avoir de la customisation.
Ouais, de ouf.
Un peu à la last mile, quoi.
Ouais, et c'est safe l'exécution, c'est rapide. J'ai juste implémenté ça pour tester et franchement, ça a l'air pas mal. Bon, bah voilà, je pense qu'on arrive à la fin. C'était cool pour une première. Je sais pas ce que t'en as pensé.
Ouais, trop intéressant. Puis justement, le fait d'échanger, je pense que ça permet pas mal de structurer la pensée, à pouvoir avoir une bonne vision sur les prochains mois. Enfin, aborder ça de manière peut-être plus sereine aussi. Et puis, je pense qu'il faut qu'on invite d'autres personnes. Je
Ouais, de
pense qu'il y a
ouf.
plein de choses à apprendre.
Faut qu'on voit
Mais
où,
ouais, super.
par où on publie ça et ensuite on invite des gens et on se fait ça la semaine pro ou la semaine d'après en fonction de nos dispos et on en fait un rendez-vous quoi.
Ouais, je pense que c'est ça. Faut prendre l'habitude. Comme tout, faut prendre l'habitude.
Yes, trop bien. Bon, allez, salut tout le monde, à la prochaine.
Salut.